Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h à Kangaba, même heure dans ce studio. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Affaire d'abus sexuels sur des basketteuses. Elles sont 5 personnes, dont l'entraîneur Amadou Bamba a écopé d'une lourde peine. Ce verdict de la Fédération internationale de basketball, FIBA, est tombé ce mercredi. Baccalauréat malien session 2023, plus de 34 000 candidats libres prennent part à cette session. Quelles sont les modalités pour passer le bac en tant que candidat libre? Les détails dans ce journal. Les groupes armés du cadre stratégique permanent CSP disent ne pas se reconnaître dans le nouveau projet de constitution. Les responsables dénoncent aussi la demande de retrait de la MINUSMA faite par les autorités. À la présentation de ce journal, Hamsitou Touré, comme annoncé dans le sommaire, la Fédération internationale de basketball, FIBA, a prononcé ce mercredi de lourdes sanctions contre 5 officiels maliens, dont l'entraîneur Amadou Bamba, dans le cadre de l'affaire dite d'abus sexuels sur des jeunes basketteuses maliennes. Suite à des accusations, une procédure disciplinaire a été lancée en juin 2021 contre 10 personnes, dont plusieurs entraîneurs et officiel de la Fédération malienne de basketball, Intala Ag Bilal.
Dans le verdict, l'entraîneur Amadou Bamba est écope de suspension à vie de toute activité liée à la FIBA, en plus d'une amende de plus de 53 millions de francs CFA. Les 4 autres bénéficient d'une suspension de toute activité liée à la FIBA allant de 8 à 10 ans, assortie d'une amende de 13 à 3 millions de francs CFA. Il s'agit de Harouna Boubacar Maïga, ancien président de la FMBB, Seydou Maïga, ancien secrétaire général de la FMBB, Amadou Traoré, ancien premier vice-président de la FMBB, et Fatoumata Diallo, ancien coach adjoint de l'équipe nationale du Mali. Ces condamnations font suite à 2 années d'enquête sur des cas de harcèlement sexuel systématique sur des joueuses maliennes. Selon la FIBA, ces sanctions ont été imposées après la vérification des faits de manière indépendante en juin 2021. Par ailleurs, les parties sont tenues de suivre une formation de protection approuvée par la FIBA avant l'expiration de la sanction et comme condition préalable à leur retour à la FIBA ou à des activités liées à la FIBA. À titre de rappel, cette affaire a éclaté suite à la publication dans le journal américain New York Times des informations dénonçant des abus sexuels de plusieurs entraîneurs et officiels sur des dizaines de joueuses maliennes.
Pour prévenir de tels cas de harcèlement sexuel au sein du basketball malien, la Fédération malienne de basketball a adopté des textes pour appliquer la tolérance zéro à l'égard des comportements abusifs au sein de cette discipline. Selon Jean-Claude Sidibé, président de la Fédération malienne de basketball, une commission d'éthique a été mise en place pour la sauvegarde des basketteurs et basketteuses. Jean-Claude Sidibé, président de la Fédération malienne de basketball, réagit au micro de Diara Faskouille.
Le Mali a été considéré pendant longtemps comme une terre de pédophilie. Depuis 2 ans, nous nous battons pour prouver que nous ne sommes pas une terre de pédophilie. Qu'il peut y avoir des brebis galeuses parmi nous, que nous extirperons bien sûr. Nous nous sommes soumis à la volonté de FIBA de faire adopter des textes pour la première fois dans un pays au monde, des textes pour la sauvegarde de nos propres enfants, filles et garçons. Donc, il faut qu'on parvienne à faire remonter les informations à chaque fois qu'il y a un soupçon sur un entraîneur, sur un dirigeant, sur un supporter, sur en tout cas quelques intervenants que ce soit dans le milieu du basket. Il faut que ces victimes soient prises en charge aussi. Ce sera la tolérance zéro. Signer une décision portant la mise en place de la commission d'éthique de la Fédération malienne de basketball. Elle sera présidée par Mohamed Ouldou Youba, qui est un instructeur émérite.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook, notre compte Twitter. Le prochain sommet de la CEDEAO se penchera sur la situation du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. L'annonce a été faite par le président ivoirien Alassane Ouattara ce mardi 20 juin 2023. La question de la tenue des élections sera au centre de ce sommet qui se tiendra le 9 juillet prochain. Autre titre de ce journal, le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement dit ne pas être inclusif ni consensuel pour le référendum tenu le 18 juin passé. Dans un communiqué hier, ses responsables ont annoncé qu'ils ont fait toutes les concessions pertinentes en demandant un compromis entre les parties signataires avant la tenue du référendum du 18 juin. Au même moment, ils demandent le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Le point avec Sita Sidibé.
Dans leur communiqué, le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement regrette que leurs différentes tractations n'ont pas été entendues avant le référendum du 18 juin. Ces responsables précisent dans le même document qu'aucun vote ne s'est déroulé le 11 et le 18 juin dans la région de Kidal, ses cercles et communes. Par ailleurs, le CSP-PDS est consterné aussi par la demande de retrait de l'aménagement du Mali par les autorités. Il met en garde contre les conséquences directes sur les populations déjà fragilisées par le terrorisme et le sous-développement, souligne la note. Au même moment, le mouvement Yerewolo debout sur les remparts salue la décision du retrait de l'aménagement prise par le gouvernement. Ses leaders entendent initier ce vendredi 23 juin 2023 une caravane de remerciements et de reconnaissance à l'égard des autorités. Les acteurs du mouvement affirment aussi faire entendre à la communauté internationale que le peuple malien n'est pas pour une reconfiguration du dispositif de l'aménagement, mais pour son retrait définitif.
Sur un tout autre sujet, parmi les candidats au baccalauréat figurent 34 038 candidats libres après trois échecs au bac. Ces élèves étant des candidats libres se présentent à l'examen pour tenter encore leur chance. Pour cela, certaines conditions s'imposent. Un reportage de Blandine Kassogué avec la voix de Alassane Sanogo.
Ces candidats tentent entre leur troisième et quatrième fois le baccalauréat étant des candidats libres. Ils espèrent que la chance leur sourit.
C'est la troisième. Ma plus grande difficulté a été mon foyer, mon mari qui refuse toujours mes études. C'est quand même la dernière fois que je me présente parce qu'il y a eu trop de difficultés.
C'est ma quatrième fois pour l'examen. J'ai fait tous mes réglés, je n'ai pas pu réussir, mais je prends du courage. Après l'examen, j'ai beaucoup d'objectifs.
Les autorités scolaires expliquent que ces candidats bénéficient des mêmes avantages que les autres. Mahamadou Keïta, directeur du Centre national d'examen et de concours d'éducation.
Ce sont les mêmes dispositions que pour les autres élèves. Les candidats réguliers, ils composent dans les mêmes matières, ils bénéficient des mêmes avantages, il n'y a aucune différence entre les deux. Et quand ils vont être admis aussi au baccalauréat, ils auront les mêmes attestations que les élèves réguliers. Seulement, on va mentionner sur leur attestation CL, c'est-à-dire candidat libre.
La condition pour pouvoir passer son bac en candidat libre est de ne pas être scolarisé. Mais certains candidats indiquent qu'ils prennent des cours dans des écoles privées afin de ne pas perdre leur notion de base.
À présent, le dossier de la semaine. La présence des vieilles personnes reste importante pour les familles et la société. Selon certains observateurs, ces personnes sont parfois stigmatisées et ne bénéficient pas d'une grande attention. Cependant, ceux-ci estiment que les personnes âgées sont les garants de la cohésion dans les familles. Que représentaient les vieilles personnes dans la société et quel rôle jouent-elles de nos jours dans la société? Blandine Kassogué s'est intéressée à la question.
Les vieilles personnes jouent un rôle d'une importance capitale au sein de la famille. Elles imposent certaines valeurs essentielles, comme le respect de l'autorité. Mais la relation intergénérationnelle entre jeunes et vieux est parfois difficile, comme le confie Gafoune Fane, une grand-mère.
Les vieilles personnes ont parlé et tout fait, mais les jeunes nous laissent de côté. Notre responsabilité est de montrer aux jeunes ce qu'il faut faire et dire. Les jeunes d'aujourd'hui sont trop fiers.
Bien que certains jeunes toujours de la valeur à la présence des personnes âgées. D'autres estiment que la génération actuelle des vieilles est bien différente de celle d'avant.
Pour moi, l'importance des vieilles personnes n'est pas que faire des bénédictions pour nous. Ils veulent nous montrer et nous préparer à l'avenir. Leur parole est sacrée.
Les vieilles personnes d'avant sont différentes de celles de maintenant. On doit les garder d'une manière que nous pouvons. C'est ce qui nous arrange. Ils veulent aussi nous préparer pour l'avenir de demain.
Le sociologue Ida Seydou Dial pense que les jeunes ont du mal à comprendre les vieilles personnes.
La jeunesse aujourd'hui n'accorde pas trop d'importance à la vieillesse, raison pour laquelle beaucoup de jeunes aujourd'hui, ou même beaucoup de personnes, sont même pressés de se débarrasser de leurs vieilles personnes. D'ailleurs, ce sont même les pieds de la société. Et souvent même si ces vieilles personnes approchent ces jeunes pour les apporter leur soutien et leur solution, on dit mais tu veux se mêler de tout, tu as fait ton temps, pourquoi tu veux faire notre temps? C'est pas que les vieilles personnes ne veulent pas aider la jeunesse, c'est la jeunesse qui ne veut même plus l'aide de ces vieilles personnes.
Les traditionalistes soutiennent que les vieilles personnes sont porteuses de savoir. savoir. Elles peuvent ainsi transmettre des valeurs comme le respect, le sens de la famille, l'honnêteté ou encore la connaissance. Yamoussa Koulibaly, historien.
Ils doivent transmettre ce savoir-là aux autres générations. Et d'ailleurs, quand vous arrivez au Corée, vous devez transmettre ce que vous savez aux autres générations. Chacun garde sa personne âgée soi pour dire ainsi que les personnes âgées chez nous, c'est l'un des piliers de notre société. C'est les arbres, les gros arbres de notre société. La jeunesse est là, mais la société, généralement, a beaucoup de dégâts pour les personnes âgées.
Le traditionnaliste exhorte les jeunes à accorder plus d'attention à ces personnes dont leur expérience pourrait être bénéfique dans la vie. Ainsi, cette relation peut être évidemment utile pour les deux parties, ajoute-t-il.
Nous recevons à présent Mariam Maïga pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Mariam.
Bonsoir Hamsatou.
Alors de quoi parle le Grand Dialogue de ce soir?
Dans le Grand Dialogue de ce soir, nous allons parler de paludisme. Et nos invités sont Dr. Colonel Aïssata Kone, directrice du Programme National de Lutte contre le Paludisme PNLP, Dr. Mouribou Doumbia, président du Bureau local de l'Ordre des médecins de Bamako, Dr. Mamadou B. Koulibaly, chercheur et directeur adjoint du Centre de recherche et de formation sur le paludisme et MRTC entomologie.
Merci Mariam. Vous pouvez retrouver ce journal ainsi que toutes les productions de Studio Tamani via l'application Studio Tamani. Vous pouvez télécharger cette application sur Play Store. C'est donc la fin de ce journal qui vous a été présenté par Hamsetou Touré à la mise en onde Mamadi Keïta. Restez à l'écoute dans un instant le magazine Tous les enfants du Mali. Le droit des enfants dans un environnement numérique, c'est sous ce thème que la journée de l'enfant africain a été célébrée. C'était le 16 juin dernier au Mali. Cette commémoration intervient dans un contexte où le respect et la protection des droits des enfants restent des défis majeurs à relever selon des organisations de défense des droits des enfants. Et pourtant, la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille informe que des résolutions sont entamées pour accompagner les enfants. Le magazine Tous les enfants du Mali est réalisé et présenté par Khalifa Goïta.
Cette journée est une opportunité aux décideurs et autres acteurs de renouveler leurs engagements en faveur de la protection aux enfants. Cela en vue de prévenir, partager et aider les enfants qui sont dans le besoin. Pour le Parlement des enfants du Mali, le respect du droit des enfants est à revoir. Youssouf Kone est l'un des membres.
Le droit des enfants n'est pas respecté dans certains villages. Les enfants ne vont pas à l'école. Ils ne font que des travaux champêtres et l'entretien des animaux. Mais à Bamako, des enfants étudient. Pour qu'il y ait égalité, le gouvernement et les organisations de défense des droits des enfants doivent s'unir pour bien mener la lutte.
La situation sécuritaire a contribué à affaiblir le respect des droits des enfants à Tombouctou. Plan International Mali, qui est un acteur dans la région, intervient dans 215 villages malgré le contexte de crise. Yaya Fomba, chef de bureau Plan International Mali, Tombouctou.
Vous savez, la crise, elle accentue toutes les vulnérabilités, y compris les femmes et les enfants. Du coup, la situation des droits des enfants en général, ce n'est pas un nouveau souhaitable. Donc, ils ont des problèmes d'accès à l'éducation. La vulnérabilité économique aussi, qui pousse beaucoup de parents à exploiter économiquement les enfants, à donner des filles en mariage précoce, des problèmes de travail des enfants, de mariage forcé.
Cependant, M. Fomba précise que son organisation mène plusieurs activités pour appuyer les autorités locales et soulager des enfants qui ne jouissent pas de leurs droits.
Nous mettons en place le comité de protection communautaire des enfants, constitué des membres de communautés, des villageois eux-mêmes. On les forme sur les droits des enfants. Ils font des activités de sensibilisation à l'endroit des parents. Ils identifient aussi les cas d'abus et de violence. Dans la région, il y a à peu près plus de 70 000 enfants qui ne disposent pas d'acte de naissance. Nous faisons des actes de naissance pour beaucoup d'enfants qui n'en ont pas. Nous appuyons en termes de nutrition. Cette année, on a donné plus de 500 bourses scolaires à des filles. Nous pensons que sur les 5 dernières années, nous avons atteint plus de 100 000 enfants, dont plus de la moitié des filles.
Autre acteur en faveur de la défense des droits des enfants, c'est la Coalition malienne des droits de l'enfant. Son président Antoine Aplokan déplore une lenteur dans l'application des textes régissant les droits des enfants. Il lance un cri de cœur à l'endroit des décideurs.
pour combattre ces phénomènes parce que le Mali de demain sera construit par ces personnes-là. Un premier aspect, c'est d'adapter les textes, de mettre la loi portant protection des droits de l'enfant qui remplace le code de protection de l'enfant, qui permet aux juges, qui permet aux lourds acteurs de se référer pour informer, sensibiliser les parents. Si un tel texte n'est pas encore sur table, on n'a pas de référence. Et le dernier point que je vais ajouter, le faible attribution du budget de l'État aux actions de promotion et de protection des droits de l'enfant.
La Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille qui reconnaît ces difficultés souligne des contraintes à ce niveau. Toutefois, ses responsables affirment que le gouvernement est engagé pour le respect des textes. René Sanogo, chef de division promotion enfant.
Beaucoup de réformes sont en train d'être faites, surtout au niveau de la justice. Il y a eu beaucoup de relectures. Tout ça, là, c'est pour prendre, de mettre en exergue tout ce que nous avons ratifié, de l'harmonisation des textes nationaux avec les conventions internationales relatives aux droits de l'enfant. Il y a des difficultés d'accès aussi dans certaines zones. Et il y a la perception également défavorable de certaines couches de la population au changement. Mais le gouvernement se bat pour relever ce défi.
Il faut noter que les enfants déplacés et ceux qui vivent dans des régions en conflit font partie de ceux qui ont le moins de chances de voir leurs droits respectés.